Honoré de Balzac. Illusion perdue. Cinquante-huit. Lorsque l'Espagnol remonta dans la calèche, il dit au postillon ces paroles à l'oreille. « Le train de la malle, il y a 3 francs de guide. » Lucien hésitait à monter. Le prêtre lui dit « Allons donc !» Et Lucien monta sous prétexte de lui décocher un argument ad hominem. « Mon père, lui dit-il, un homme qui vient de dérouler du plus beau sang-froid du monde les maximes que beaucoup de bourgeois taxeront de profondément immorales, et qui le sent ? Dit le prêtre. Voilà pourquoi Jésus-Christ voulait que le scandale eût lieu, mon fils, et voilà pourquoi le monde manifeste une si grande horreur du scandale. Un homme de votre trempe ne s'étonnera pas de la question que je vais lui faire. Allez, mon fils, dit Carlos Herrera, vous ne me connaissez pas. Croyez-vous que je prendrais un secrétaire avant de savoir s'il a des principes assez sûrs pour ne me rien prendre? Je suis content de vous. Vous avez encore toutes les innocences de l'homme qui se tue à 20 ans. Votre question? Pourquoi vous intéressez-vous à moi? Quel prix voulez-vous de mon obéissance? Pourquoi me donnez-vous tout? Quelle est votre part? L'Espagnol regarda Lucien et se mit à sourire. Ah, attendons une côte. Nous la monterons à pied et nous parlerons en plein vent. Le vent est discret. Le silence régna pendant quelque temps entre les deux compagnons, et la rapidité de la course aida, pour ainsi dire, à la griserie morale de Lucien. Mon père, « voici la côte, » dit Lucien en se réveillant comme d'un rêve. « Eh bien, marchons, » dit le prêtre en criant d'une voix forte au postillon d'arrêter. Et tous deux, ils s'élancèrent sur la route. « Enfin, » dit l'Espagnol en prenant Lucien par le bras, « as-tu médité la Venise sauvée d'Otway ? As-tu compris cette amitié profonde d'homme à homme qui lie Pierre à Jaffier, qui fait pour eux d'une femme une bagatelle, et qui change entre eux tous les termes sociaux? Eh bien, voilà pour le poète. » Le chanoine connaît aussi le théâtre, se dit Lucien en lui-même. « Avez-vous lu Voltaire ? » lui demanda-t-il. « Oh, j'ai fait mieux, » répondit le chanoine. « Je le mets en pratique. »« Vous ne croyez pas en Dieu ? » ?»« Allons, c'est moi qui suis l'athée, » dit le prêtre en souriant. « Venons au positif, mon petit. J'ai 46 ans. Je suis l'enfant naturel d'un grand seigneur, par ainsi sans famille, et j'ai un cœur. Mais apprends ceci. Grave-le dans ta cervelle encore si molle. L'homme a horreur de la solitude. Et de toutes les solitudes, la solitude morale est celle qui l'épouvante le plus. Les premiers anachorètes vivaient avec Dieu. Ils habitaient le monde le plus peuplé, le monde spirituel. Les avares habitent le monde de la fantaisie et des jouissances. L'avare a tout, jusqu'à son sexe, dans le cerveau. La première pensée de l'homme, qu'il soit lépreux ou forçat, infâme ou malade, est d'avoir un complice de sa destinée. À satisfaire ce sentiment, qui est la vie même, il emploie toutes ses forces, toute sa puissance, la verve de sa vie. Sans ce désir souverain, Satan aurait-il pu trouver des compagnons? Il y a là tout un poème à faire qui serait l'avant-scène du paradis perdu, qui n'est que l'apologie de la révolte.
Celui-là serait l'Iliade de la corruption, dit Lucien.
Eh bien, je suis seul. Je vis seul. Si j'ai l'habit, je n'ai pas le cœur du prêtre. J'aime me dévouer. J'ai ce vice-là. Je vis par le dévouement. Voilà pourquoi je suis prêtre. Je ne crains pas l'ingratitude et je suis reconnaissant. L'Église n'est rien pour moi. C'est une idée. Je me suis dévoué au roi d'Espagne. Mais on ne peut pas aimer le roi d'Espagne. Il me protège, il plane au-dessus de moi. Je veux aimer ma créature, la façonner, la pétrir à mon usage, afin de l'aimer comme un père aime son enfant. Je roulerai dans ton tilbury, mon garçon. Je me réjouirai de tes succès auprès des femmes. Et je dirai, ce beau jeune homme, c'est moi, ce marquis de Rubempré. Je l'ai créé et mis au monde aristocratique. Sa grandeur est mon œuvre. Il se tait ou parle à ma voix. Il me consulte en tout. L'abbé de Vermont était cela pour Marie-Antoinette. Il l'a mené à l'échafaud. Il n'aimait pas la reine, répondit le prêtre.
Dois-je laisser derrière moi la désolation? Dit Lucien.
J'ai des trésors. Tu y puiseras.
En ce moment, je ferai bien des choses pour délivrer ces chars, répliqua Lucien d'une voix qui ne voulait plus du suicide.
Dis un mot, mon fils, et il recevra demain matin la somme nécessaire à sa libération. Comment? Vous me donneriez 12 000 francs? Eh, enfin, ne vois-tu pas que nous faisons 4 lieues à l'heure? Nous allons dîner à Poitiers. Là, si tu veux signer le pacte, me donner une seule preuve d'obéissance. La diligence de Bordeaux portera 15 000 francs à ta sœur.
Et où sont-ils? Le prêtre espagnol ne répondit rien, et Lucien se dit « Le voilà pris, il se moquait de moi. » Un instant après, l'Espagnol et le poète étaient remontés en voiture, silencieusement. Et, silencieusement, le prêtre mit la main à la poche de sa voiture. Il en tira ce sac de peau fait en gibecière, divisé en 3 compartiments, si connus des voyageurs. Il ramena 100 portugaises, en y plongeant 3 fois de sa large main, qu'il ramena chaque fois pleine d'or.
« Mon père, je suis à vous, » dit Lucien, ébloui de ce flot d'or.
« Voici le tiers de l'or qui se trouve dans ce sac, 30 000 francs, sans compter l'argent du voyage. »«
Et vous voyagez seul ?» s'écria Lucien.
« Qu'est-ce que cela ? » fit l'Espagnol. J'ai pour plus de 100 000 écus de traite sur Paris. Un diplomate sans argent, c'est ce que tu étais tout à l'heure, un poète sans volonté. »
Au moment où Lucien montait en voiture avec le prétendu diplomate espagnol, Ève se levait pour donner à boire à son fils. Elle trouva la fatale lettre et la lut. Une sueur froide glaça la moiteur que cause le sommeil du matin. Elle eut un éblouissement, elle appela Marion et Kolb. À ce mot, « Mon frère est-il sorti ?» Kolb répondit,
« Oui, madame, avant le jour. »
« Gardez-moi le plus profond secret sur ce que je vous confie, » dit Ève aux 2 domestiques. « Mon frère est sans doute sorti pour mettre fin à ses jours.
Courez tous les deux, prenez des informations avec prudence et surveillez le cours de la rivière. »
Ève resta seule, dans un état de stupeur horrible à voir. Ce fut au milieu du trouble où elle se trouvait que, sur les 7 heures du matin, Petit Claud se présenta pour lui parler d'affaires. Dans ces moments-là, l'on écoute tout le monde. « Madame, dit l'avoué, notre pauvre cher David est en prison et il arrive à la situation que j'ai prévue au début de cette affaire. Je lui conseillais alors de s'associer pour l'exploitation de sa découverte avec ses concurrents, les Cointet, qui tiennent entre leurs mains les moyens d'exécuter ce qui, chez votre mari, n'est qu'à l'état de conception. Aussi, dans la soirée d'hier, aussitôt que la nouvelle de son arrestation m'est parvenue, qu'ai-je fait? Je suis allé trouver messieurs Cointet avec l'intention de tirer d'eux des concessions qui pussent vous satisfaire. En voulant défendre cette découverte, votre vie va continuer d'être ce qu'elle est, une vie de chicane où vous succomberez, où vous finirez épuisé et mourant par faire, à votre détriment peut-être, avec un homme d'argent, ce que je veux vous voir faire, à votre avantage, dès aujourd'hui, avec messieurs Cointet frères. Vous économiserez ainsi les privations, les angoisses du combat de l'inventeur contre l'avidité du capitaliste et l'indifférence de la société. Voyons, si messieurs Cointet paient vos dettes, si, vos dettes payées, il vous donne encore une somme qui vous soit acquise, quel que soit le mérite, l'avenir ou la possibilité de la découverte, en vous accordant, bien entendu toujours, une certaine part dans les bénéfices de l'exploitation. Ne serez-vous pas heureux? Vous devenez, vous, madame, propriétaire du matériel de l'imprimerie, et vous la vendrez sans doute. Cela vaudra bien 20 000 francs. Je vous garantis un acquéreur à ce prix. Si vous réalisez 15 000 francs par un acte de société avec messieurs Cointet, vous auriez une fortune de 35 000 francs et, au taux actuel des rentes, vous vous feriez 2 000 francs de rente. On vit avec 2 000 francs de rente en province. Et remarquez bien que, madame, vous auriez encore les éventualités de votre association avec messieurs Cointet. Je dis éventualités, car il faut supposer l'insuccès. Eh bien, voici ce que je suis en mesure de pouvoir obtenir. D'abord, libération complète de David, puis 15 000 francs remis à titre d'indemnité de ses recherches, acquis sans que messieurs Cointet puissent en faire l'objet d'une revendication à quelque titre que ce soit, quand même la découverte serait improductive. Enfin, une société formée entre David et messieurs Cointet pour l'exploitation d'un brevet d'invention à prendre, après une expérience faite en commun et secrètement, de son procédé de fabrication sur les bases suivantes. Messieurs Cointet feront tous les frais. La mise de fonds de David sera l'apport du brevet et il aura le quart des bénéfices. Vous êtes une femme pleine de jugement et très raisonnable, ce qui n'arrive pas souvent aux très belles femmes. Réfléchissez à ces propositions et vous les trouverez très acceptables. « Ah, monsieur, s'écria la pauvre Ève au désespoir et en fondant en larmes, pourquoi n'êtes-vous pas venu hier au soir me proposer cette transaction? Nous eussions évité le déshonneur, et bien pis. Ah, ma discussion avec les Cointet, qui, vous avez dû vous en douter, se cache derrière Métivier, n'a fini qu'à minuit. Mais qu'est-il donc arrivé depuis hier soir
qui soit pire que l'arrestation de notre pauvre David ? » demanda Petit Claud.
« Voici l'affreuse nouvelle que j'ai trouvée à mon réveil, » répondit-elle en tendant à Petit Claud la lettre de Lucien. « Vous me prouvez en ce moment que vous vous intéressez à nous. Ah, vous êtes l'ami de David et de Lucien. Je n'ai pas besoin de vous demander le secret. »
« Oh, soyez sans aucune inquiétude, » dit Petit Claud en rendant la lettre après l'avoir lue. « Lucien ne se tuera pas. Après avoir été la cause de l'arrestation de son beau-frère, il lui fallait une raison pour vous quitter, et je vois là comme une tirade de sortie, en style de coulisses. »
Les Cointet étaient arrivés à leur fin. Après avoir torturé l'inventeur et sa famille, ils saisissaient le moment de cette torture où la lassitude fait désirer quelque repos. Tous les chercheurs de secrets ne tiennent pas du bouledogue, qui meurt sa proie entre les dents, et les Cointet avaient savamment étudié le caractère de leur victime. Pour le grand Cointet, l'arrestation de David était la dernière scène du premier acte de ce drame. Le second acte commençait par la proposition que Petit Claud venait faire. En grand maître, l'avoué regarda le coup de tête de Lucien comme une de ces chances inespérées qui, dans une partie, achève de la décider. Il vit Ève si complètement matée par cet événement qu'il résolut d'en profiter pour gagner sa confiance, car il avait fini par deviner l'influence de la femme sur le mari. Donc, au lieu de plonger Madame Séchard plus avant dans le désespoir, il essaya de la rassurer et il la dirigea très habilement vers la prison, dans la situation d'esprit où elle se trouvait, en pensant qu'elle déterminerait alors David à s'associer aux Cointet. « David, madame, m'a dit qu'il ne souhaitait de fortune que pour vous et pour votre frère. » Mais il doit vous être prouvé que ce serait une folie que de vouloir enrichir Lucien. Ce garçon-là mangerait trois fortunes. » L'attitude d'Ève disait assez que la dernière de ses illusions sur son frère s'était envolée. Aussi, l'avoué fit-il une pause pour convertir le silence de sa cliente en une sorte d'assentiment. Ainsi, dans cette question, reprit-il, il ne s'agit plus que de vous et de votre enfant. C'est à vous de savoir si 2 000 francs de rente suffisent à votre bonheur, sans compter la succession du vieux Séchard. Votre beau-père se fait, depuis longtemps, un revenu de 7 à 8 000 francs, sans compter les intérêts qu'il sait tirer de ses capitaux. Ainsi, vous avez, après tout, un bel avenir. Pourquoi vous tourmenter ? L'avoué quitta Madame Séchard en la laissant réfléchir sur cette perspective, assez habilement préparée la veille par le grand Cointet. Allez leur faire entrevoir la possibilité de toucher une somme quelconque, avait dit le loup-cervier d'Angoulême à l'avoué quand il vint lui annoncer l'arrestation. Et lorsqu'ils se seront accoutumés à l'idée de palper une somme, ils seront à nous. Nous marchanderons, et petit à petit, nous les ferons arriver au prix que nous voulons donner de ce secret. » Cette phrase contenait en quelque sorte l'argument du second acte de ce drame financier. Quand Madame Séchard, le cœur brisé par ses appréhensions sur le sort de son frère, se fut habillée et descendit pour aller à la prison, elle éprouva l'angoisse que lui donna l'idée de traverser seule les rues d'Angoulême. Sans s'occuper de l'anxiété de sa cliente, Petit Claud revint lui offrir le bras, ramené par une pensée assez machiavélique, et il eut le mérite d'une délicatesse à laquelle Ève fut extrêmement sensible, car il s'en laissa remercier sans la tirer de son erreur.
cette petite attention. J'ai un homme si dur, si cassant, et dans un pareil moment, modifia les jugements que Madame Séchard avait jusqu'à présent portés sur Petit Claud.
« Je vous mène, lui dit-il, par le chemin le plus long, mais nous n'y rencontrerons personne.
Ah, voilà la première fois, monsieur, que je n'ai pas le droit d'aller la tête haute. On me l'a bien durement appris hier.
Oh, ce sera la première et la dernière.
Oh, je ne resterai certes pas dans cette ville.
Si votre mari consentait aux propositions qui sont à peu près posées entre les Cointet et moi, dit Petit Claud à Ève en arrivant au seuil de la prison, faites-le-moi savoir. Je viendrai aussitôt avec une autorisation de cachant qui permettrait à David de sortir. Et vraisemblablement, il ne rentrerait pas en prison.
Ceci dit en face de la geôle était ce que les Italiens appellent une combinaison. Chez eux, ce mot exprime l'acte indéfinissable où se rencontre un peu de perfidie mêlée au droit. L'à propos d'une fraude permise, une fourberie quasi légitime et bien dressée. Selon eux, la Saint-Barthélemy est une combinaison politique. Par les causes exposées ci-dessus, la détention pour dette est un fait judiciaire si rare en province que, dans la plupart des villes de France, il n'existe pas de maison d'arrêt. Dans ce cas, le débiteur est écroué à la prison où l'on incarcère les inculpés, les prévenus, les accusés et les condamnés. Tels sont les noms divers que prennent légalement et successivement ceux que le peuple appelle génériquement des criminels. Ainsi, David fut mis provisoirement dans une des chambres basses de la prison d'Angoulême, d'où, peut-être, quelques condamnés venaient de sortir après avoir fait son temps. Une fois écroué avec la somme décrétée par la loi pour les aliments du prisonnier pendant un mois, David se trouva devant un gros homme qui, pour les captifs, devient un pouvoir plus grand que celui du roi, le geôlier. En province, on ne connaît pas de geôlier maigre. D'abord, cette place est presque une sinécure. Puis, un geôlier est comme un aubergiste qui n'aurait pas de maison à payer. Il se nourrit très bien en nourrissant très mal ses prisonniers qu'il loge. D'ailleurs, comme fait l'aubergiste, selon leurs moyens. Il connaissait David de nom, à cause de son père surtout, et il eut la confiance de le bien coucher pour une nuit, quoique David fût sans un sou. La prison d'Angoulême date du Moyen Âge et n'a pas subi plus de changements que la cathédrale. Encore appelée maison de justice, elle est adossée à l'ancien présidial. Le guichet est classique, c'est la porte cloutée, solide en apparence, usée, basse, et de construction d'autant plus cyclopéenne qu'elle a comme un œil unique au front, dans le Judas par où le geôlier vient reconnaître les gens avant d'ouvrir. Un corridor règne le long de la façade au rez-de-chaussée, et sur ce corridor ouvrent plusieurs chambres, dont les fenêtres hautes et garnies de hottes tirent leur jour du préau. Le geôlier occupe un logement séparé de ses chambres par une voûte qui sépare le rez-de-chaussée en deux parties, et au bout de laquelle on voit, dès le guichet, une grille fermant le préau. David fut conduit par le geôlier dans celle des chambres qui se trouvait auprès de la voûte et dont la porte donnait en face de son logement. Le geôlier voulait voisiner avec un homme qui, vu sa position particulière, pouvait lui tenir compagnie.
« C'est la meilleure chambre, » dit-il en voyant David stupéfait à l'aspect du local.
Les murs de cette chambre étaient en pierre, et assez humide. Les fenêtres, très élevées, avaient des barreaux de fer. Les dalles de pierre jetaient un froid glacial.
on entendait le pas régulier de la sentinelle en faction qui se promenait dans le corridor. Ce bruit monotone, comme celui de la marée, vous jette à tout instant cette pensée « On te garde, tu n'es plus libre ». Tous ces détails, cet ensemble de choses, agit prodigieusement sur le moral des honnêtes gens. David aperçut un lit exécrable, mais les gens incarcérés sont si violemment agités pendant la première nuit qu'ils ne s'aperçoivent de la dureté de leur couche qu'à la seconde nuit. Le geôlier fut gracieux. Il proposa naturellement à son détenu de se promener dans le préau jusqu'à la nuit. Le supplice de David ne commença qu'au moment de son coucher. Il était interdit de donner de la lumière aux prisonniers. Il fallait donc un permis du procureur du roi pour exempter le détenu pour dette du règlement qui ne concernait évidemment que les gens mis sous la main de justice. Le geôlier admit bien David à son foyer, mais il fallut enfin le renfermer à l'heure du coucher. Le pauvre mari d'Ève connut alors les horreurs de la prison et la grossièreté de ses usages qui le révolta. Mais, par une de ces réactions assez familières aux penseurs, il s'isola dans cette solitude, il s'en sauva par un de ces rêves que les poètes ont le pouvoir de faire tout éveillé. Le malheureux finit par porter sa réflexion sur ses affaires. La prison pousse énormément à l'examen de conscience. David se demanda s'il avait rempli ses devoirs de chef de famille. Quelle devait être la désolation de sa femme? Pourquoi, comme le lui disait Marion, ne pas gagner assez d'argent pour pouvoir faire plus tard sa découverte à loisir? Comment, se dit-il, rester à Angoulême après un pareil éclat? Si je sors de prison, qu'allons-nous devenir? Où irons-nous? Quelques doutes lui vinrent sur ses procédés. Ce fut une de ces angoisses qui ne peut être comprise que par les inventeurs eux-mêmes. De doute en doute, David en vint à voir clair à sa situation, et il se dit à lui-même ce que les Cointet avaient dit au père Séchard, ce que Petit Claud venait de dire à Ève. En supposant que tout aille bien, que sera-ce à l'application? Il me faut un brevet d'invention, c'est de l'argent. Il me faut une fabrique où faire mes essais en grand. Ce sera livrer ma découverte. Oh, comme Petit Claud avait raison! Les prisons les plus obscures dégagent de très vives lueurs. Bah, dit David en s'endormant sur l'espèce de lit de camp où se trouvait un horrible matelas en drap brun très grossier. Je verrai sans doute Petit Claud demain matin. David s'était donc bien préparé lui-même à écouter les propositions que sa femme lui apportait de la part de ses ennemis. Après qu'elle eut embrassé son mari et se fut assise sur le pied du lit, car il n'y avait qu'une chaise en bois de la plus vile espèce, le regard de la femme tomba sur l'affreux baquet mis dans un coin et sur les murailles parsemées de noms et d'apophtegmes écrit par les prédécesseurs de David. Alors, de ses yeux rougis, les pleurs recommencèrent à couler. Elle eut encore des larmes après toutes celles qu'elle avait versées en voyant son mari dans la situation d'un criminel. « Voilà donc où peut mener le désir de la gloire !» s'écria-t-elle. « Oh, mon ange, abandonne cette carrière !» Allons ensemble le long de la route battue et ne cherchons pas une fortune rapide. Il me faut peu de choses pour être heureuse, surtout après avoir tant souffert. Si tu savais, cette déshonorante arrestation n'est pas notre grand malheur. Tiens. Elle tendit la lettre de Lucien que David eut bientôt lue. Et, pour le consoler, elle lui dit l'affreux mot de Petit Claud sur Lucien.
Ah, si Lucien s'est tué, c'est fait en ce moment, dit David. Et si ce n'est pas fait en ce moment, il ne se tuera pas. Il ne peut pas, comme il le dit, avoir du courage plus d'une matinée.
Mais restez dans cette anxiété, s'écria la sœur, qui pardonnait presque tout à l'idée de la mort.
Elle redit à son mari les propositions que Petit Claud avait soi-disant obtenues des Cointet et qui furent aussitôt acceptées par David avec un visible plaisir.
« Nous aurons de quoi vivre dans un village auprès de Loumeau, où la fabrique des Cointet est située, et je ne veux plus que la tranquillité !» s'écria l'inventeur.
« Si Lucien s'est puni par la mort, nous aurons assez de fortune pour attendre celle de mon père. Et, s'il existe, le pauvre garçon saura se conformer à notre médiocrité. Les Cointet profiteront certainement de ma découverte. Mais après tout, que suis-je relativement à mon pays? Un homme. Si mon secret profite à tous, eh bien, je suis content. Tiens, ma chère Ève, nous ne sommes faits ni l'un ni l'autre pour être des commerçants. Nous n'avons ni l'amour du gain, ni cette difficulté de lâcher toute espèce d'argent, même le plus légitimement dû, qui sont peut-être les vertus du négociant, car on nomme ces deux avarices, prudence et génie commercial.
Enchantée de cette conformité de vue, l'une des plus douces fleurs de l'amour, car les intérêts et l'esprit peuvent ne pas s'accorder chez deux êtres qui s'aiment, Ève pria le geôlier d'envoyer chez Petit Claud un mot par lequel elle lui disait de délivrer David, en lui annonçant leur mutuel consentement aux bases de l'arrangement projeté. 10 minutes après, Petit Claud entrait dans l'horrible chambre de David et disait à Ève
« Retournez chez vous, madame. Nous vous y suivrons. »
« Eh bien, mon cher ami, dit Petit Claud, tu t'es donc laissé prendre. Et comment as-tu pu commettre la faute de sortir ?
Comment ne serais-je pas sorti ? Voici ce que Lucien m'écrivait. »
David remit à Petit Claud la lettre de Cérizet. Petit Claud la prit, la lut, la regarda, tâta le papier et causa d'affaires, en pliant la lettre comme par distraction, et il la mit dans sa poche. Puis l'avoué prit David par le bras et sortit avec lui, car la décharge de l'huissier avait été apportée au geôlier pendant cette conversation. En rentrant chez lui, David se crut dans le ciel. Il pleura comme un enfant en embrassant son petit Lucien, et se retrouvant dans sa chambre à coucher après 20 jours de détention, dont les dernières heures étaient, selon les mœurs de la province, déshonorantes. Kolb et Marion étaient revenus. Marion apprit à Loumeau que Lucien avait été vu marchant sur la route de Paris, au-delà de Marsac. La mise du dandy fut remarquée par les gens de la campagne, qui apportaient des denrées à la ville. Après s'être lancé à cheval sur le grand chemin, Kolb avait fini par savoir, à Mansle, que Lucien, reconnu par M. Marron, voyageait dans une calèche en poste.
« Que vous disais-je ? » s'écria Petit Claud.
« Ce n'est pas un poète, ce garçon-là. C'est un roman continuel. »«
En poste ? » disait Ève. « Et où va-t-il encore, cette fois ?»«
Maintenant, » dit Petit Claud à David, « venez chez messieurs Cointet, ils vous attendent. »«
Ah, monsieur !» s'écria la belle madame Séchard. « Je vous en prie, défendez bien nos intérêts. Vous avez tout notre avenir entre les mains. »«
Voulez-vous, madame, » dit Petit Claud, « que la conférence ait lieu chez vous ? Je vous laisse David. Ces messieurs viendront ici ce soir et vous verrez si je sais défendre vos intérêts. »«
Ah, monsieur, vous me feriez bien plaisir, » dit Ève.
« Eh bien, » dit Petit Claud,
à ce soir, ici, sur les 7 heures.
« Je vous remercie, » répondit Ève, avec un regard et un accent qui prouvèrent à Petit Claud combien de progrès il avait fait dans la confiance de sa cliente.
« Ne craignez rien, vous le voyez. J'avais raison, » ajouta-t-il.
« Votre frère est à 30 lieues de son suicide.
Enfin, peut-être ce soir aurez-vous une petite fortune.
Il se présente un acquéreur sérieux pour votre imprimerie. »
« Si cela était, » dit Ève, « pourquoi ne pas attendre avant de nous lier avec les Cointet ?»«
Ah, vous oubliez, madame, » répondit Petit Claud, qui vit le danger de sa confidence, « que vous ne serez libre de vendre votre imprimerie qu'après avoir payé M. Métivier, car tous vos ustensiles sont toujours saisis. »
Rentré chez lui, Petit Claud fit venir Cérizet. Quand le prote fut dans son cabinet, il l'emmena dans une embrasure de la croisée.
« Tu seras demain soir propriétaire de l'imprimerie Séchard et assez puissamment protégé pour obtenir la transmission du brevet, lui dit-il dans l'oreille. « Mais tu ne veux pas finir aux galères.
« De quoi les galères ?» fit Cérizet.
« Ta lettre à David est un faux. » Et je la tiens. Si l'on interrogeait Henriette, que dirait-elle ?
Je ne veux pas te perdre, dit aussitôt Petit Claud en voyant pâlir Cérizet.
Vous voulez encore quelque chose de moi ? S'écria le Parisien.
Eh bien, voici ce que j'attends de toi, reprit Petit Claud.
Écoute bien. Tu seras imprimeur à Angoulême dans 2 mois.
Mais tu devras ton imprimerie, et tu ne l'auras pas payée en 10 ans.
Tu travailleras longtemps pour tes capitalistes, et de plus, tu seras obligé d'être le prête-nom du Parti libéral.
C'est moi qui rédigerai ton acte de commandite avec Ganarac. Je le ferai de manière que tu puisses un jour avoir l'imprimerie à toi.
Mais s'il crée un journal, si tu en es le gérant, si je suis ici premier substitut, tu t'entendras avec le grand Cointet pour mettre dans ton journal des articles de nature à le faire saisir et supprimer. Les Cointet te paieront largement pour leur rendre ce service-là. Je sais bien que tu seras condamné, que tu mangeras de la prison, mais tu passeras pour un homme important et persécuté. Tu deviendras un personnage du Parti libéral, un sergent Mercier, un Paul-Louis Courrier, un Manuel au petit pied. Je ne te laisserai jamais retirer ton brevet. Enfin, le jour où le journal sera supprimé, je brûlerai cette lettre devant toi. Ta fortune ne te coûtera pas cher.
Les gens du peuple ont des idées très erronées sur les distinctions légales du faux. Et Cérizet, qui se voyait déjà sur les bancs de la cour d'assises, respira.
« Je serai, dans 3 ans d'ici, procureur du roi à Angoulême, » reprit Petit Claud. « Tu pourras avoir besoin de moi.
Songe-y. « C'est entendu, » dit Cérizet.
« Mais vous ne me connaissez pas.
« Brûlez cette lettre devant moi, » reprit-il.
« Fiez-vous à ma reconnaissance. »
Petit Claud regarda Cérizet. Ce fut un de ces duels d'œil à œil où le regard de celui qui observe est comme un scalpel avec lequel il essaie de fouiller l'âme et où les yeux de l'homme qui met alors ses vertus en étalage sont comme un spectacle. Petit Claud ne répondit rien. Il alluma une bougie et brûla la lettre en se disant « Il a sa fortune à faire.
»« Vous avez à vous une âme damnée, » dit le prote.